18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver, chers amis. Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous savez, c'est parti et c'est ici que ça se passe nulle part ailleurs. Pour commenter, analyser et décrypter l'actualité, chers amis. Ben oui, c'est Les Informés, c'est vous Les Informés. Votre émission, votre magazine, votre nouveau créneau horaire, 18h, 19h30. Eh bien, au sommaire, qu'est-ce qui vous attend? Un bien beau programme. Riche, tout d'abord, j'ai décidé d'ouvrir l'antenne, chers amis auditeurs, là, maintenant, juste après le sommaire. Je n'aurai pas d'invité parce que je veux qu'on prenne le temps, vous et moi, pour parler, alors, pour parler de l'Algérie et du Maroc. Est-ce qu'on peut parler de tension? Parce que je vois qu'il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on puisse en parler à l'antenne dans Les Informés. Alors ce soir, juste là, vous pouvez nous appeler là d'ailleurs, au 01 53 48 3000, j'ouvre l'antenne tout de suite. Pendant 30 minutes, je veux qu'on ne parle que de ce sujet-là. Alors, une violente bagarre en finale a fait l'objet d'une véritable tension entre l'Algérie et du Maroc. C'était la Coupe d'Arabe, justement des U17. C'était il y a quelques jours les amis, hein. Quelques jours. Au coup de sifflet final, une violente bagarre s'est abattue, elle est éclatée entre les deux équipes. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même de tristes images de voir ça. J'étais consterné à l'idée de me dire pourquoi les U17, eh bien, se sont laissés guider par cet émaillage, cette violence, bagarre entre des jeunes Algériens et Marocains dans la foulée, bref. Et vous savez, ces commentaires, ça va très très loin ces histoires, parce que sur les réseaux sociaux, moi ça m'a dépassé. J'ai vu que ça s'est traduit par un véritable conflit. Alors, est-ce qu'on peut parler de tension? Parce que maintenant ça dépasse tout. Est-ce qu'on peut parler de tension footballistique, sportive? On peut parler de tension politique entre les deux peuples frères, je le rappelle, l'Algérie et le Maroc? Est-ce que concrètement, je veux vraiment qu'on prenne le temps, sans tabou, d'en parler de ces deux pays qui sont, je le rappelle, nés d'une même histoire, hein, je vais pas refaire l'histoire là ce soir, mais vous le savez. Donc 01 53 48 3000, parlons-en, mettons les pieds dans le plat et prenons le temps évidemment d'écouter votre témoignage, vos opinions. Je voudrais même confronter, pourquoi pas vous-même. Ça veut dire que je veux plein d'appels et je voudrais que monsieur Intel de Montpellier puisse converser avec madame Intel de Paris, qui elle-même va converser avec Toulouse, qui elle-même va converser avec un autre auditeur de Lille. Je veux ce soir tout le monde, qu'on échange tous ensemble autour de ce sujet, s'il vous plaît. Ensuite, eh bien, le Quad 9, c'est avec Pascal Boniface à 18h30. Et puis, trois sujets qui ont retenu notre attention pour les débatteurs ce soir. Que retenir de la crise énergétique avec les mesures de Madame Elisabeth Borne, la Première Ministre? On reviendra sur le député LFI Adrien Quatennens visé par une main courante déposée par son épouse. Est-ce que ça fragilise la NUPES? Et puis on reviendra, vous savez, sur ces deux puissances. La Chine se bloque, la Chine d'un côté, la rencontre avec Vladimir Poutine et Xi Jinping qui se sont vus aujourd'hui lors d'un sommet en Ouzbékistan. Chers amis, ça va faire mal. 0153483000, c'est parti. Maintenant, les tensions France-Maroc, peut-on en parler? Est-ce que ça existe? Est-ce que les peuples, eux, nient complètement ça et que... Bien au contraire, il faut renforcer cela. 01 53 48 3000, je vous attends.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Mes invités, c'est vous, partout en France. Vous, oui, jingle auditeur.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Eh bien, chers amis auditeurs, partout en France, le standard est ouvert. Je veux vous entendre, les amis auditeurs, sur les relations maroco-algériennes, Maroc-Algérie, et je veux même ouvrir l'antenne entre vous. Nordine, du 75 de Paris, donc. Bonjour, Nordine. Bonjour Nordine. Bon, Nordine est parti. Abdelkader du 78. Bonjour Abdelkader. Abdelkader. Aïkoum salam, je vous écoute Abdelkader. Vous nous appelez de quelle ville?
Je suis à côté de Montagnoli, je suis collègue à Montagnoli.
Eh bien, bienvenue mon cher Abdelkader. Parlons-en, sans tabou, et mettons les pieds dans le plat. Qu'est-ce que vous pensez? Non mais j'entends, alors, je vois tout sur les réseaux sociaux. Sauf que là, il faut en parler sur l'antenne.
Voilà, il n'y a pas de tabou à en parler, je crois qu'il faut crever les assez. Après là, oui, il faut être vachement réfléchi. Je me permets de te tutoyer.
Allez-y, tutoyez-moi Abdelkader.
Ouais. Tu me parles d'une équipe de U17, on appelle des gamins.
Des gamins, exactement, des gamins.
Génération. Ouais, on fait partie d'une génération qui a une cinquantaine d'années, 40 ans, où on est beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi, et on est moins dans l'émotion, dans les réseaux sociaux. Donc forcément, on relativise.
Pardonnez-moi, je vais être un peu trivial. C'est parti en cacahuète sur les réseaux sociaux, cet affrontement.
Ouais, mais écoute, sur les réseaux sociaux, qui s'exprime? Des gens qui sont frustrés, des gens qui sont en vide de vie. Donc forcément, ces gens-là, ils s'appellent à la fitna. C'est pas là où il faut regarder les choses. Il faut regarder que c'est un comportement forcément pas sportif, pas très politique.
Oui.
Et en plus, de l'autre côté, sincèrement, c'est pas là que le foot doit régner. Le foot doit régner dans le sport, pas dans la bagarre. Même si on a une rivalité politique, géographique avec le Maroc,
oui,
on doit respecter le Maroc. Je suis d'origine algérienne.
Oui.
Les enfants sont moitié-moitié.
Oui.
C'est ce qui compose cette richesse. Donc aujourd'hui,
ils sont moitié algériens, vous voulez dire, et moitié marocains.
Ils sont en Maghreb.
Vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont... Non mais c'est ça qui me surprend, mon cher Abdelkader. Nombreux sont ceux qui sont issus d'un fruit qui est beau... L'Algérie et le Maroc. Il y en a plein qui sont les deux. Qu'est-ce qu'on leur dit?
Si tu leur disais que avant que le Maroc naisse, l'Algérie naisse, que la Libye naisse, tu leur dis c'est quoi l'histoire de l'Afrique du Nord? Personne ne le sait.
Ouais.
C'était les Berbères.
Abdelkader, vous avez raison.
Ouais.
Attendez, restez à l'antenne, parce que moi je veux croiser vos points de vue. Je vais aller à Toulouse. Djamel, bonsoir Djamel, bonjour.
Bonjour, voilà.
Vous êtes bienvenue, Djamel. Il y a Abdelkader qui vous écoute et je veux qu'on échange tous sur ce sujet.
Bon, j'étais pas au courant de cet incident lié au football, là, les jeunes qui s'étendent, l'Algérie, le Maroc, qui se foutent sur la gueule.
Oui. Abdelkader l'a rappelé. C'est des jeunes de. C'est vraiment des jeunes adolescents.
C'est bon. 17 ans.
17 ans, oui.
Ouais, 17 ans, c'est pas fini à 17 ans. T'es un gamin, t'es un branleur. C'est moi du terme.
Oui, mais je sais pas pourquoi ils se sont investis, se sont impliqués politiquement. Parce que bon, par contre, je suis un peu l'information.
Ah, faut voir les scènes de désolation, hein, je vous le dis. Hein.
Non, mais moi, je veux pas parler de l'incident du coup. Moi, je trouve déplorable que sur les réseaux sociaux, les dirigeants, que ce soit des dirigeants algériens ou marocains, fustigent l'un ou l'autre État. Le fils d'Hassan II serait un bâtard, ça vient de l'Algérie. Moi, personnellement, je suis d'origine marocaine.
Oui.
Mon père, ma mère ont vécu en Algérie.
Oui.
Je suis de la famille en Algérie.
Oui.
Je vais aussi souvent en Algérie qu'au Maroc.
Oui.
Je ne sais pas si vous connaissez géographiquement au Maroc la ville de Saïdia. Sur la route, là, il y a un virage. On voit tous les Marocains, tous les Algériens.
C'est vrai. D'ailleurs, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, rappelons-le. Hein.
Oui, c'est... Moi, entendre ces dilemmes, entendre des jeunes qui se sont battus et qui se sont sentis impliqués politiquement, ça m'énerve. On peut pas traverser la frontière terrestre. On peut pas y aller en avion. Mais moi, je sais pas, comme
font vos dire, je peux
Abdelkader, ouais. Abdelkader.
Ouais. Est-ce que je peux intervenir?
Oui, allez-y, on s'est fait pour ça. Moi, je veux que les auditeurs parlent entre eux.
Ouais, Djamel, salam alaikum. Alors, ce qu'il faut que tu saches, ouais. Djamel, ce sont des gamins qui se sont bouffés le nez. Mais c'est des gamins. Ça aurait pu être le Bénin avec le Congo. Ça aurait pu être le Brésil avec la Colombie. Ce sont
c'est
tout
vrai.
Simplement des gamins qui ont été animés par les réseaux sociaux, enflammés par les réseaux sociaux. Et classe, c'est tout. Faut pas polémiquer. n'a pas de conflit entre l'Algérie et le Maroc.
Non,
il y a,
non surtout pas.
Il y a une problématique qui est liée au Sahara, effectivement, d'un côté.
Oui.
Et c'est tout, ça s'arrête là.
Sur le Sahara occidental.
Moi, je ne connais pas, ici en France, de Marocain ou d'Algérien qui a de la haine vis-à-vis de son voisin. Peut-être en Algérie, peut-être au Maroc, parce qu'ils ne connaissent pas le sujet.
Non, je crois pas, vraiment. Jamel, et ensuite on ira écouter Ramdam qui nous appelle du 95 01 53 48 3000. Je veux vraiment vous entendre partout nous appeler. Vous allez venir nous donner votre avis sur, évidemment, les relations entre le Maroc et l'Algérie. Et puis, est-ce qu'on peut parler de tension ou pas? Là, je suis en train de... Là, vraiment, c'est vous qui... C'est vous. Allez vous exprimer, c'est vous. La parole vous est donnée. Jamel.
Bon. Moi, personnellement, je n'habite pas à Cité, je n'habite pas à Toulouse, j'habite à 4 km au sud de Toulouse. Bon, par contre, je fréquente beaucoup la communauté maghrébine, et je tiens à préciser, maghrébine. En campagne, on est vraiment proches, on est solidaires, on va dans les mêmes mosquées, et en ville, c'est pareil. On est vraiment liés, on est soudés, on est... Au Maroc, quand je suis au Maroc, je ne sens pas franchement qu'il y a une prétention ou une haine contre le peuple algérien. C'est ça quand je vais en Algérie. Je pense que c'est, comme vous dites, c'est des événements géopolitiques qui créent cette tension auprès des dirigeants. Mais après, pour moi, il n'y a pas de conflit. Et je trouve dommage.
Alors comment on explique, messieurs, parfois ce regain de tension entre les deux pays?
En fait, si je peux me permettre,
Abdelkader,
vous voulez peut-être laisser parler Ramdan, non?
Ramdan, tiens, on va l'accueillir. Bonjour Ramdan.
Oui.
Salam alaikum. Ramdan, vous nous appelez de quelle ville, Ramdan?
De Taverny, dans 95.
Bienvenue, on vous écoute, cher Ramdan.
Merci beaucoup. Alors, les précédents auditeurs, ils ont déjà dit 70% de ce que je voulais dire.
Oh, tu vas dire les 30% alors.
Pardon?
Tu vas dire les 30% alors.
J'ai pas entendu.
Non, il a dit, il vous reste 30%, donc on vous écoute pour ces 30%.
Ouais. Alors non, si je suis lancé, je vais pas m'arrêter. Alors j'ai trouvé ça exactement, moi quand j'ai vu les images, franchement ça m'a frustré, j'ai trouvé ça dégueulasse. Je sais pas qui a commencé, je veux pas le savoir. En tout cas, c'est sûr que ça a été instrumentalisé clairement par les deux côtés. Ça, j'ai pas de doute sur ça. Alors, la difficulté est de trouver une solution à ça. C'est pas la problématique. La problématique, on la connaît tous. On sait très bien que l'un des pays a besoin de l'autre et vice versa. Ça, pareil, y a pas tout. Alors, je précise, mon épouse est marocaine.
Vous savez ce que vous dites, Ramdan? Mais oui. je vous promets, je suis très sérieux de ce que je veux vous dire là.
Ouais.
90% de ceux qui m'entourent sont un mariage franco-maroco-algéro. 90% de ceux qui m'entourent.
Franco-maroco-algéro, tant mieux, alhamdoulilah. C'est peut-être la difficulté. Oui.
Ramdan et Jamel, ce qu'il faut qu'on sache...
Ça, c'est Abdelkader.
Ce qu'il faut qu'on mette en avant, c'est cette faculté qu'on a eue de vivre avec nos frères ici, parce que nos parents sont venus dans le même intérêt, dans le même objectif. D'accord? Nous, les Algériens, on est arrivés effectivement un petit peu avant, les Marocains un petit peu plus tard. Bon. Ce qui n'a pas empêché de vivre en communauté dans nos quartiers respectifs, qu'on soit dans le sud ou dans le nord, avec les autres, en toute harmonie, en toute fraternité, en toute... Maintenant, la problématique qui existe, elle existe déjà sur le plan politique, elle s'est attisée depuis que le Maroc, effectivement,
oui,
on va dire, a gentiment invité les Israéliens à se rendre chez eux. Ça a fragilisé peut-être un petit peu plus ces tensions.
Ça, Attendez, pas tous en même temps.
Qui veut prendre la parole? Jamel?
Non, c'est moi, j'ai pas fini.
Non, mais je vais la finir.
Alors, attendez, Kader, finissez Abdelkader, et ensuite je donne la parole.
Non, je veux. Oui,
dans
après Ramdan
et Jamel.
Ouais, ce que je voulais juste dire, finaliser complètement, c'est pas parce que effectivement le Maroc a décidé d'avoir une orientation politique autre que celle de l'Algérie qu'il faut complètement mettre à l'écart ou à l'ailleurs insulter la monarchie. Bien au contraire, je crois que chacun doit faire ce qu'il veut. Après, c'est vrai que nous, les Algériens, on n'a jamais eu de relation diplomatique avec Israël. On n'en aura jamais. Ça peut être quelque part gêné la population franco-algérienne et algérienne, certainement, c'est sûr. Il n'y a pas de tabou à en parler. J'en parle avec mes frères marocains. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein, comme eux n'acceptent pas du tout les généraux algériens, bien au contraire. Enfin, au contraire. Voilà, moi je pense que...
Alors, Abdelkader, on a bien compris évidemment votre idée. Ramadan dans l'ordre, et ensuite Jamel, et je vais aller direction 92 pour accueillir Zara. Et ensuite Jamel.
Oui, merci. Je rebondis sur ce qu'il a dit en dernier. Moi, personnellement, je suis absolument contre les deux régimes et qu'ils aillent au diable ensemble, et les régimes des généraux et la monarchie marocaine. Parce qu'aucun des deux peuples ne vit très bien comme il devrait vivre.
Oui, on est d'accord, Ramadan.
Abdelkader, laissez-le finir, s'il vous plaît.
Laisse-moi finir. Ça, sur ça, il faut qu'on mette ça de côté. Les relations avec Israël, c'est pas le peuple marocain qui les a signées. Et si vous les prenez, ils sont 80% contre ces relations. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a un gouvernement algérien qui est totalement soumis à une certaine partie du gouvernement français qui en fait ce qu'il veut de l'Algérie. Donc sur ça, il n'y a personne qui est jaloux de l'autre.
Jamel, je voudrais l'entendre de Toulouse. Jamel.
Ouais, juste, je soulève de fait important là. Bon, enfin, le pseudo-rapprochement avec Israël et la monarchie du Maroc. Bon, faut dire que les Juifs à Gaza et à Rabat, parce que ils ont vécu en harmonie avec les Marocains. Donc ça a toujours été, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Maroc.
Vous voulez dire il y a une histoire.
Ouais, il y a une histoire. Il y a.
Laissez-le finir, s'il vous plaît.
On va parler des événements politiques. La visite de Macron en Algérie, ça fait beaucoup parler. Les deux communautés, même si on parle de souvenirs de la guerre d'Algérie, on n'est pas dupes. Macron, il est venu pour le pétrole. Mais bon, ça concerne les dirigeants des deux
messieurs,
pays.
Messieurs, Jamel. Ouais. Abdelkader, Ramadan et tous les autres au 01 53 48 3000, je lance la pub et on se retrouve pour parler des relations Algérie-Maroc. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h25, chers amis auditeurs, dans Les Informés, 18h-19h30, vous êtes très très nombreux à nous appeler, et c'est une très bonne chose, nous parlons des relations. J'ai décidé d'en parler, parce que c'est aussi l'objet ici sur Beurre FM, c'est l'ADN même de Beurre FM. Vous êtes nombreux des auditeurs qui sont franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens, mais ce soir nous allons parler des relations. Y a-t-il réellement des tensions entre l'Algérie et le Maroc? Vous êtes nombreux à débattre, et on a Abdelkader qui ont échangé, Jamel et Ramadan. Vous me pardonnerez, vous trois, parce que vous savez quoi, je vais aller direction l'Allemagne. L'Allemagne, visiblement, on est écouté en Allemagne. Et puis j'irai direction Montpellier, Redouane. Mais restez avec moi, Abdelkader et Jamal et Ramadan, parce que je vais croiser vos points de vue. Bonsoir, Redouane. Redouane, vous m'appelez de quelle ville d'Allemagne?
J'appelle de Düsseldorf.
Was machen Sie? Vous savez que je parle allemand, attention. Hein. Redouane, dites-moi votre sentiment sur les relations de ce soir.
Oui, est-ce que je peux m'expliquer en arabe beaucoup mieux ou bien...
En français, pour que tout le monde puisse vous comprendre, s'il vous plaît.
Oui, le problème est que je ne peux pas exprimer vraiment en français bien.
Je sais, vous êtes allemand.
Mais entre parenthèses, j'ai vécu au Maroc.
Oui.
Mais j'ai vu que vraiment, en parlant pas de l'ISR, de la ville, la majorité est à Ham, Allah il a dit, les Algériens,
c'est vrai.
Il m'a dit, je suis derrière, il dit, فهمت يحبوا لنا الخير وما يعادوش كاع عمري ما تلاقيت مع جماعه وتكلموا على السياسه ولا
Alors, pour ceux qui ne sont pas arabophones, Redouane l'expliquait parce qu'il nous appelle d'Allemagne, c'est un Allemand. Il disait qu'il a vécu au Maroc et que le peuple marocain l'a reçu d'une grande hospitalité et qu'ils ont toujours été d'une très grande correction avec lui.
Voilà, c'est ça. Et je pense que les canards d'Al Kabila, tout à l'heure, je ne sais pas qui est.
Abdelkader, Ramdan.
Abdelkader, voilà, il a parlé, il a dit. Israël, normalement la mission a déclaré.
Et vous écoutez. Et il peut intervenir.
Voilà, là comme Delena, juste parce qu'on a droit à les sentiments envers les Marocains, les Marocains qui envers.
Je suis d'accord.
S'il vous plaît. C'est écoutez-vous les uns et les autres, sinon c'est la zizanie à l'antenne. Abdelkader. Qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur allemand?
Ouais, non, mais moi, je crois que, justement, il y a, la problématique, c'est, on a beau, dialoguer, en fait, la compréhension, elle n'a pas été, suffisamment bien faite, ou soit je communique très très mal. J'ai pas dit, qu'il y avait une problématique entre le Maroc et l'Algérie, j'avais dit que chacun regarde ses intérêts, que le Maroc a décidé de choisir des relations avec l'Israël, et que nous avons décidé de ne pas avoir ce type de relation. Qu'importe.
Attends, il ne faut pas que tu parles,
Redouane vous répond.
قلت لك انا مانيش مدعي في اسرائيل ولا نحب اسرائيل بصح كي نهضر على اسرائيل اليهود راهم في الدائر خويا راهم بيناتهم في لي فامي كاين بعض الفاميليات اللي نعرفهم دايرين من الميمات كيما تهضر فانيسا الله يعطيها مات تمنى وربي يحفظها فانيسا كي تهضر في الليل كيما قال اليهود راهم يديروا هذا واش راهم يديروا الجزائريين بيناتهم بعضهم اليهود ما يديروش خاوتهم هذاك
Bon. Redouane, j'ai bien compris. Abdelkader vous répond. Et ensuite, je libère tous les autres pour aller direction Montpellier. Parce que je veux accueillir les autres auditeurs aussi. Hein.
0153.
Abdelkader.
J'ai juste un truc à dire très important. Après,
je vais couper. Moi, je vais devoir quitter. Je vais devoir quitter parce que visiblement, on ne me laisse pas la parole.
Allez-y, Abdelkader. Allez-y, Abdelkader, on vous écoute.
Je crois que, en fait, la compréhension est compliquée. J'ai jamais dit que l'auteur du Maroc, c'est d'avoir choisi des relations avec l'Israël.
C'est leur choix. Ça, c'est leur choix. C'est politique.
Bien sûr. Alors, je dis tout simplement, et j'ai
un politique, c'est pas politique.
Je vais quitter là. Oh,
Abdelkader, dans le respect mutuel, s'il vous plaît.
Mais le respect, il n'est pas fait par les autres collègues.
Allez-y, Abdelkader, on vous écoute.
Ouais, je disais que le Maroc a une grande fraternité avec certains juifs, comme nous avons, nous, l'Algérie, une fraternité avec certains juifs qu'on a accueillis. C'est normal que les juifs marocains soient bien accueillis, on est d'accord. Mais j'ai jamais dit, jamais dit qu'il fallait pas que le Maroc se mette avec Israël. Je dis que le sentiment de situation qu'on connaît aujourd'hui est né à partir de cette situation-là. C'est tout. J'ai rien dit d'autre.
Le quoi de neuf dans quelques minutes. Abdelkader, mille merci d'être intervenu. Ramdan, attendez, il faut que j'avance. Ramdan, merci. Jamel de Toulouse. Et ensuite, Redouane de l'Allemagne, merci infiniment d'être intervenu. En revanche, je garde Nejma de Montpellier et Yacine du 92 et je vais devoir accueillir avec un peu de retard le Quad 9 avec Pascal Boniface qui sera dans une poignée de secondes avec nous, juste le temps d'accueillir nos auditeurs. Tiens, Nejma de Montpellier. Bonsoir Nejma.
Oui, bonsoir BFM et tout le monde.
Bienvenue. Attendez, je veux juste vous accueillir. Yacine du 92. Bonsoir Yacine.
Bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville du 92?
De Meudon, exactement, de Meudon-la-Forêt.
Meudon, bienvenue. Nejma de Montpellier, Yacine de Meudon, vous restez avec moi, c'est le Quoi de Neuf Jingle.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bon cher Pascal Boniface, le patron, cofondateur et directeur de l'ERIS. Bonsoir, bienvenue.
Merci Alil, bonsoir.
Eh bien, vous avez décidé de consacrer, comme tous les jeudis, votre Quoi de Neuf, le billet d'humeur, autour de l'axe, eh bien, Sino-Russie.
Oui, on parle de plus en plus, y compris du côté américain, d'un axe des pays autoritaires, donc autour de Moscou et de Pékin, contre lequel il serait formé une coalition des démocraties. Ça va prendre un peu plus de poids, puisque Xi Jinping, le leader chinois, et Poutine vont se rencontrer. Ce n'est pas un sommet bilatéral, mais c'est un sommet dans le cadre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui avait été créée il y a maintenant une quinzaine d'années, qui réunit bien sûr la Russie, la Chine, les pays centrales, mais aussi l'Inde et aussi l'Iran qui s'apprêtent à rentrer. Alors, ça sera la première fois que Xi Jinping sort de Chine depuis le début de la crise du Covid. Depuis 2019, il n'est pas sorti à l'étranger depuis. Et donc, le fait qu'il rencontre Poutine, qu'il y aura des photos de cette mise en scène de leur alliance est extrêmement intéressant et significatif. Bien sûr, du côté de Poutine, il recherche un appui dans la guerre qu'il mène en Ukraine parce qu'ils ont dit. Et Pékin, d'ailleurs, veut effectivement afficher. Parce que, contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas une alliance aussi solide. D'une part, elle n'est pas égalitaire.
Oui.
Les pays chinois disent, en tant que Russes, ils sont plus sur le même plan. Mais les Chinois ne veulent pas laisser tomber la Russie, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'une victoire occidentale. Et ce qui c'est d'une part, bien sûr, le régime autoritaire, mais surtout, ce sont des pays qui n'acceptent plus que l'Occident domine le monde et qui fait prévaloir leur intérêt contre ce qu'ils estiment être la mainmise révolue des Occidentaux sur l'ordre international. Donc c'est plus une alliance d'opportunité pour faire front commun par rapport à quand même un adversaire qui reste très puissant et pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble en joignant leurs forces.
Oui. Oui, oui, absolument. Ah, on a un peu perdu la liaison avec Pascal Boniface. On vous a un peu perdu, mais on a compris, évidemment.
Allô, moi je vous entends.
Ah oui, très bien. Alors, oui, effectivement. Vous disiez la chute, quelle était la chute de votre billet ?
Eh bien, la chute, c'est que ces pays se lient plutôt par opportunisme, parce que malgré tout, ils ont des intérêts contradictoires. Mais surtout, ils refusent la domination du monde occidental, ils refusent la domination américaine, et c'est plutôt ça qui est le ciment de leur alliance, le refus d'une domination occidentale du monde, d'un monde qui serait dirigé par les Occidentaux.
Bravo pour ce billet d'humeur, merci. À jeudi prochain sans faute, mon cher Pascal Boniface.
Avec grand plaisir.
Plaisir partagé, prenez soin de vous, mon cher Pascal Boniface, qu'on retrouve tous les jeudis à 18h30 avec le Quoi de Neuf. On marque la pause pub et on se retrouve avec Najma de Montpellier, Yacine du 92 et ensuite les débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Restez avec nous, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h42, chers amis auditeurs, merci. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est une très bonne chose. Le face-à-face, vous avez raison, je vais les présenter avant d'aller direction Montpellier pour accueillir Nejma et Yacine. Bonjour Jessica Ellanger.
Bonjour.
Une élue de Creil, comment ça va ?
Ça va super, et toi ?
Tirez bien le micro devant vous.
Yep.
Farid Temsamani, consultant, comment ça va ?
Salut Adil, salut à tous, très bien, merci.
Ahmed Lawedj, le patron du PRG, comment ça va ?
Bonsoir Adil, bonsoir les auditrices, les auditeurs et les chroniqueuses et les chroniqueurs.
Exactement. Allez, tiens, je vais accueillir Najma de Montpellier, puis ensuite Yacine en même temps, l'un et l'autre, je veux les entendre. Bienvenue, on vous écoute Najma.
Oui, bonjour. Ben, écoutez, je fais le constat, le sujet, il a fallu vraiment qu'il me motive. Ça fait 20 minutes que je patiente, mais c'est normal, hein. Et bravo pour les pubs, etc. C'est important pour la radio.
J'aime bien.
Non, mais surtout, vous avez mentionné quelque chose que je vais un peu soulever dans les publicités. Alors, l'idée, c'est que j'ai écouté depuis tout à l'heure, et je suis en voiture et je ne pouvais pas m'empêcher de m'arrêter, même si j'ai affaire. On a un point de vue des gens qui vivent en France, des auditeurs. C'est normal, la radio bon, est basée à Paris, je crois. On a beaucoup d'auditeurs de partout, mais j'ai envie de dire, pour les relations Algérie-Maroc, il y a deux choses. Il y a le point de vue historiologique et le point de vue sociétal. J'ai envie de dire, la vie des gens tout court et ce qu'ils font de leur vécu par rapport à leurs origines, leur pays. Donc ça suppose tradition, culture, etc. On va pas refaire l'histoire sur l'Algérie qui a été acculturée par la colonie, je résume. Moi j'ai envie de dire, tant qu'on est en France, je me demande juste à quel point on peut jauger, évaluer et si ce n'est être peut-être chercheur au CNRS et faire des tas d'exposés élitistes,
oui.
En radio ou à travers des écrits, peu importe, chose qui se passe très rarement pour l'Algérie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement autour de l'Algérie en France, c'est les 60 ans, les 50 ans, les ceci, les cela. Au niveau culturel, on est complètement sans repère, nous, les Algériens d'ici.
Oui.
Moi, je suis G2, mais j'ai déjà 2-3 générations devant moi, enfants qui ont des enfants, et ça commence à pousser. Je ne suis pas très vieille, hein, j'ai une cinquantaine d'années, et j'ai passé des années à chercher pourquoi je me sens perdue. Voilà. En France, j'ai pas de repère, Algérie. Je suis allée du nord au sud. À chaque fois, j'ai remarqué que quand il y a des événements culturels, d'où l'importance du festival arabesque à Montpellier en ce moment.
Oui.
C'est le 17e, hein, ça fait 17 ans. Et bravo à eux. Et je suis contente qu'ils vous soutiennent, apparemment. J'ai envie de dire aux Algériens, on a du boulot de ceux qui vivent ici. Ça fait des 60 ans qu'on voyage par millions pour l'été, pour les vacances, pour la famille, pour beaucoup de décès aussi, hein, enterrer nos parents, nos ceci, nos ceux. Des enterrements. Donc, les générations s'effacent. Mais j'ai remarqué qu'en France, il n'y a pas une trace de quelconque de mise à l'honneur, une trace qui permettrait d'être constructif, nous les Algériens, sur ce qui est notre vraiment culture. C'est de là que ça part. Quand j'entends des jeunes hommes qui se... Voilà, les auditeurs là, qui se chamaillent, etc. Bon, le point de vue historiologique, on prend des bouquins, Google, c'est fait. Mais en vérité, on n'a plus de repères, nous, algériens. Tandis que le Maroc, c'est une monarchie. On sait que pour ceux qui ont voyagé là-bas, moi, je suis allée très souvent. J'ai même plus des deux Marocains. J'ai des enfants maroco-algériens. Et si je pouvais encore avoir, ma vie entre les deux, ce serait bien. On a du boulot. Du nord au sud, j'ai été bénévole dans des festivals. J'ai jamais réussi à pouvoir mettre à l'honneur l'Algérie. C'est très maigre. On a Malika Rahamine.
Déjà, il va falloir écourter évidemment votre pensée.
Bon, alors
parce qu'il faut qu'on avance.
Moi, je veux dire aux Algériens que pour avoir des relations de mieux en mieux, enfin, pour qu'on ait plus ce débat, en tout cas, d'un point de vue sociologique, sociétal, ici en France, en tout cas, ou en Allemagne, ou en Belgique. Punaise, sauvez votre pays. Essayez de mener des actions. Essayez d'aller en Algérie pour autre chose que les vacances. Ramenez ici de la culture, parce qu'on a perdu nos repères.
Merci Nejma. Le point de vue va faire réagir, forcément, et évidemment, c'est aussi l'objet. Tiens, Yacine, vous nous appelez de Meudon. Bonsoir Yacine.
Bonsoir. Oui, donc moi je veux parler par rapport à ce qui se passe la dernière fois de les joueurs de foot de 17 ans, c'est malheureux. Donc je remercie le lui-même qui a fait la vidéo la dernière fois et il a fait un grand discours. Il a dit Rabni Mohébio, la Palestine. Moi, il y a une différence. On était frères avec les Marocains. Après, moi, je travaille avec les Marocains, mon chauffeur poids lourd. Alhamdoulilah, on se respecte, tout ça. Mais il y a des hypocrisies, tu vois. Comme ça passe à partir avec Pierre, mais derrière, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste les gens, ils ne parlent pas, et ce n'est pas les vérités. C'est ça le problème, il faut qu'il s'arrête ça, parce que là, moi j'ai peur, hein. La dernière fois je vois, j'ai des révolutions, c'est la guerre. C'est la guerre. Mmh. Il faut qu'on arrête ça, parce que maintenant, on touche les familles, on touche les enfants, on touche... il faut qu'on s'arrête.
Bon. Ah oui, 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 en tout cas, vous le soulevez, un point. Merci Yacine oui. de Meudon. Voilà, je vous le disais, effectivement, et les informer, c'est comment dirais-je, l'émission même qui doit engager ce genre de sujet de société. C'est aussi notre rôle, la radio Beurre FM. Et on en parlera autant que votre fois que vous le souhaitez. C'est parti, jingle, le face-à-face.
Les informer, le face-à-face.
Avec nos débatteurs, influenceurs, débattrices également, Jessica Elonguer, Farid Temsamani, et puis Ahmed Lawadj. Tiens, un petit mot sur les relations Marocco-Algéro, tiens, Farid Temsamani, oui. un petit tour de table, hein, juste sur ce que vous avez entendu, sur les auditeurs qui ont croisé leur point de vue.
Ouais, y a
d'une phrase, hein.
Bah, c'est compliqué, on peut pas faire ça. Une seule phrase, c'est très émotif, c'est... On est dans l'émotionnel essentiellement, alors que c'est deux pays, en tout cas pour ceux qui vivent là-bas, puisque nous on vit ici, et donc du coup, je pense même qu'on n'a même pas forcément le droit d'évoquer quoi que ce soit. C'est deux pays, deux puissances régionales, tout simplement, qui n'ont pas la même vision du monde, qui est historique. La dernière auditrice parlait d'une chose très juste à mon sens, c'est que vous avez un pays qui est millénaire, un État millénaire qui s'appelle le Maroc, qui est le plus occidental, physiquement parlant, du monde arabo-musulman, et vous avez un pays qui est l'Algérie, qui est une civilisation millénaire également, mais qui a subi un traumatisme extraordinaire, malheureusement, qui s'appelle la colonisation. Il y a beaucoup de pays qui ont été colonisés, mais c'est le seul qui a une colonisation de peuplement dont les conséquences, en fait, on en paye encore. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que c'est un véritable débat et je n'ai pas envie de créer la polémique gratuitement.
Et puis, une histoire commune, la berbérité, le Amazir.
Bien sûr. Mais... c'est pour ça que si on rentre dans les détails, c'est un peu plus complexe. Pour moi, c'est deux puissances régionales, une puissance qui est l'Algérie, incontestablement, et un pays qui s'appelle le Maroc, qui essaye, avec le peu d'atouts économiques qu'il a, d'évoluer. D'où les conséquences avec la signature des accords d'Abraham, etc. etc. Et je ne pense pas qu'il faille faire des comparaisons. Après, le peuple, c'est la même chose. C'est des berbères, c'est des musulmans, puisqu'ils partagent d'ailleurs cette religion pour l'essentiel. Donc c'est pareil. Mais la mentalité, plus on avance en fait, plus le temps avance en fait, et plus la manipulation des États, il faut le dire aussi, hein, quel que soit d'un côté comme de l'autre, en fait fait qu'en fait les gens se font des guéguerres, etc. Pour moi, c'est une histoire de puissance régionale, tout simplement.
Jessica Elonguer.
Tout comme mon collègue vient de dire, c'est que je pense, dans tous les cas, je ne suis pas légitime à dire quoi que ce soit. Par contre, j'appelle quand même à la conciliance et non plus aux divergences. Aujourd'hui, on peut pas dire que la relation Maroc-Algérie a quand même un impact en France, notamment pour les enfants qui suivent, qui ont une éducation, qui ont une certaine éducation, qui vont aussi créer des relations à leur tour avec soit les amis, soit extérieurs. Et on le voit que parfois, ça crée des conflits intrafamiliales, ça crée des conflits au sein de certaines amitiés. Et donc, du coup, je pense que de toute façon, il faudrait qu'à un moment, on trouve une solution, donc appeler à la conciliance et non plus à la...
Ouais, elle existe, la relation, elle est complètement entre les peuples, en tout cas. Ahmed Lawadj.
Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peuple, c'est des peuples frères, déjà, à la base, l'Algérie et le Maroc. Donc, que les Algériens se déplacent au Maroc pour aller en vacances, ou que les Marocains aillent en Algérie, sont accueillis d'une manière extraordinaire et avec toujours... je dirais de la bonté, toujours d'un accueil magnifique, etc. Après, vous avez la politique. Moi, je ne rentre pas dans ce système politique. Je ne connais pas ni la politique algérienne, ni la politique marocaine. Donc, s'il y a des gens qui interviennent ici en France pour dire « Oui, l'Algérie, le Maroc », vous ne savez pas. Déjà, ici en France, vous ne savez pas. Alors, vous allez vous occuper de l'Algérie et du Maroc. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer les liens. Et ces liens vont se faire sur des liens, je dirais, humains. De créer des actions de partenariat entre des hommes et des femmes qui sont soit d'origine algérienne, soit d'origine marocaine. C'est là-dessus qu'on va pouvoir avancer et faire passer des messages de paix et de fraternité.
Alors, on va parler des sujets qui ont retenu notre attention. Merci en tout cas. Vive la fraternité, c'est ça le mot. Le mot, juste, vive la fraternité. La crise énergétique, le plan Borne. La première ministre a déployé, évidemment, tout son plan. Alors, j'ai envie de vous dire, entre le plafonnement des tarifs réglementés, entre le chèque électricité de 100 euros, le gaz, l'électricité, les mesures ont annoncé. Bref, tout cela, on me demande de lancer la pub. Je vous poserai tous un tour de table. Est-ce que c'est pas pour limiter la casse, le bouclier tarifaire, le quoi qu'il en coûte? À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, je distribue la parole, le quoi qu'il en coûte, Farid Tamsamani, le quoi qu'il en coûte, le tarif tarifaire, jusqu'à quand? Et finalement, la question ultime qu'on se pose tous, limiter la casse ou pas? Farid Tamsamani.
Oui, oui, bah forcément limiter la casse. Les conséquences de la crise énergétique, en tout cas à court terme, se font déjà en réalité sentir. Pour ceux qui sont plus au tarif réglementé, et surtout toutes les entreprises qui sont passées grâce à la libéralisation du marché chez des privés, aujourd'hui en fait ont déjà potentiellement des augmentations tarifaires extraordinaires. Ne serait-ce que les bailleurs, par exemple les bailleurs sociaux, ne peuvent déjà plus répercuter la hausse tarifaire. Je lisais dans un article du Monde, je crois, qu'en fait, si on appliquait la hausse tarifaire, il fallait augmenter, je crois, 50 à 60 euros mensuels dans les charges, les loyers. Donc, en vérité, c'est impossible. Donc, à un moment donné, effectivement, l'État va devoir prendre ses responsabilités. Après, on verra ce que la géopolitique nous amènera sur la crise. Je ne suis pas certain que l'envolée des prix puisse perdurer dans le temps. Après, il y a un élément qui est fondamental, c'est les entreprises. Les entreprises, en fait, elles sont, que ce soit l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, en réalité, elles ont déjà bifurqué sur du privé et elles payent déjà le prix très cher. Et je pense qu'il va y avoir de la casse, notamment de la casse sociale, parce qu'à un moment donné, il y a des modèles économiques qui ne seront plus viables. Et donc,
c'est quoi la casse? La récession?
Potentiellement, il y a des pays qui vont commencer à rentrer en récession. On l'a vu notamment avec le Covid.
Les Allemands.
Et les Allemands sont extrêmement fragiles là-dessus. Les Français, un peu moins. Mais la solidarité européenne va amener aussi les Français à payer. Je rappelle juste que potentiellement, on n'aura pas de coupure. En tout cas pour les particuliers en France. Mais il y aura de la casse. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui ne pourront plus vendre leurs produits à bon tarif d'une certaine manière, et donc du coup qui vont fermer tout simplement. Et donc s'il y a de la fermeture économique, c'est-à-dire qu'il y a de la casse sociale. Exactement.
Il est 19h pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Jessica et Longuerre.
Je suis totalement d'accord avec ce que Farid dit, donc je ne vais même pas rajouter plus d'éléments là-dessus. Il y a quand même quelque chose que Mme Borne a dit, c'est la sobriété. La sobriété, donc, dans la consommation. Et là, c'est important de le souligner parce que une sobriété, ça s'accompagne. Ça fait depuis longtemps qu'on parle que on a un changement climatique qui bat son plein. On l'a vu avec la canicule cet été. On l'a vu avec les incendies. On a vu des hectares brûlés. On a vu aussi des inondations dans, là où j'habite, à Creil, dans l'Oise, il y a eu des inondations. Il y a eu des orages qui ont tué des gens. Des orages qui ont tué. Donc, c'est pas nouveau.
D'ailleurs, le maire de Montataire, il a dit qu'il ne payait plus les factures.
Et en plus, le maire de Montataire, en effet...
Il ne paiera plus les factures.
C'est ça. Il y a plusieurs... Il y a au moins 200 maires, d'ailleurs, dans l'Oise, qui ont signé pour dire qu'ils étaient déjà, fâchés, qui soulignent le fait qu'il y aura une banqueroute et qu'on appelle l'État à venir aider. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, je pense aussi, je vais souligner quand même l'incompétence du gouvernement. La compétence, parce que moi, je pense quand même qu'on a des chercheurs, on a des spécialistes sur la question. Donc, les problèmes ukraino-Russie ou l'implication de l'Europe là-dedans, moi, je pense que déjà, on le savait avant que ça arrive, parce que c'est des risques potentiels. On a des gens qui travaillent longuement dessus, qui ont écrit des 400 pages sur la question. On ne pouvait pas dire aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu anticiper ce changement.
Et Farid, avant de donner la parole à Ahmed Lewedge, qu'est-ce que vous voulez lui répondre?
Oui, je vais être un peu polémique. L'incompétence, c'est l'incompétence de François Hollande, qui a décidé de fermer un certain nombre d'unités nucléaires dans notre pays. Qu'est-ce qui fait la force de l'industrie française? C'est l'énergie. C'est le fait que le général de Gaulle, à l'après la Seconde Guerre mondiale, dit « Nous allons développer notre parc nucléaire ». Et la France est un tout petit pays,
sa force industrielle, c'est de l'énergie pas chère, contrairement aux Allemands, par exemple, qui sont complètement dépendants des Russes, par exemple. Or, aujourd'hui, alors qu'on a véritablement besoin du parc nucléaire, vous avez plus de la moitié qui sont en stand-by. Et bien ça, pour moi, l'incompétence, ce sont les gens comme ça qui ne sont absolument pas visionnaires.
Ahmed Lawadj.
Écoutez, moi, quand on en parlait tout à l'heure, le bouclier énergétique, c'est le rôle d'un gouvernement d'essayer de trouver une solution pour que les Françaises et les Français n'aient pas une facture, comme on leur a indiqué, qui passerait de 4% à 120%.
Exact.
Là, un des objectifs, c'était de baisser ça à 15%. Dans tout ça, il y a quand même les grands oubliés.
La facture du gaz pourrait augmenter quand même de 15%.
Tout à fait, mais à partir de janvier.
Ça va faire mal.
De 4 à 15%. Mais les grands oubliés, pour l'instant, tous ceux qui habitent dans les bars HLM. Mmh. Ceux-là, on n'a pas pris en compte. Hein. Ceux-là, on ne sait pas comment ça va se passer pour eux.
Ça, c'est vrai. Vous avez raison.
Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse en sorte de aussi faire un geste pour ces personnes, parce que les bailleurs sociaux, ils ne sont pas, on va dire, pris en charge par ce bouclier. Donc j'espère que le gouvernement va faire en sorte de trouver une solution pour ces habitants-là. Moi, je rebondis aussi sur le fait qu'à un moment donné, on va augmenter de 15%, mais qu'est-ce qu'on fait des super...
Mais est-ce que la solution, c'est pas qu'est-ce justement ce aussi, fameux chèque énergie
fait, non, mais qu'est-ce qu'on fait aussi des super
pour les 12 millions de foyers.
On avait indiqué il y a un mois où le président Macron avait dit oui, on va taxer toutes les grosses entreprises pour pouvoir financer le bouclier énergétique. Où c'est que ça en est? Où ça en est? En Espagne, ça se fait. En Allemagne, ça se fait. Oui. En France, ça se fait pas. Il faut que le gouvernement s'attelle à mettre en place ce gain qui est énorme, mais qui n'est pas que sur les super profits sur l'énergie, mais aussi sur les grandes entreprises qui ont fait un max de fric pendant la crise du Covid.
Mais la réponse, elle n'a pas été donnée justement aux HLM, aux bailleurs sociaux. C'était de dire ce fameux chèque aux 12 millions de foyers les plus modestes, chèque de 100 euros ou de 200 euros en fonction des revenus.
Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont parlé ce matin à Gabriel Attal. Il n'a pas dit ça. Il a dit on va regarder. Et d'autre part, et là je rebondis par contre sur les communes. Les communes ne sont pas au courant aujourd'hui parce qu'il y en a plein qui ont peur, je dirais, vis-à-vis de leur budget. Mais il y a aussi une prise en charge à hauteur de 60-70% des produits énergétiques qui devront être pris en charge aussi par l'État.
Farid Temsamani.
On a déjà commencé à regarder. C'est qu'il y a certaines piscines, par exemple, qui ont dû fermer parce que, justement, les prix. Tous ces modèles économiques qui étaient basés sur du contrat d'achat d'énergie court, en réalité, parce que c'était moins cher que DFA à une époque, en fait, aujourd'hui, la tendance s'est complètement renversée. Et aujourd'hui, vous avez des communes qui ont été obligées de fournir eux-mêmes de l'énergie à leurs piscines, à leurs délégataires, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre. Sur les bailleurs, en fait, ça va être la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que dès aujourd'hui, si un bailleur devait répercuter officiellement la facture d'énergie aux habitants, en réalité, c'est plus à peu près en moyenne, à peu près entre 50 à 60 euros mensuels supplémentaires, juste sur l'énergie. Autant dire que quand vous avez une moyenne de loyer, je connais pas la moyenne en France, mais quand vous avez des gens qui payent entre 300 et 600 euros mensuels, rajouter 60 euros, 10%, c'est impossible en réalité. Sans compter le reste de l'inflation des produits, etc. Donc effectivement, ça va être à mon avis délicat. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Enfin, le gouvernement n'aura pas le choix de toute manière de s'y atteler. Et ça va être compliqué.
Autre sujet qui a retenu Ahmed Lawadj.
Je rebondis aussi, c'est que moi, à mon avis, ils vont tout faire, le gouvernement va tout faire, hein, je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, je pense qu'ils vont mettre le paquet, parce que, à mon avis, l'année prochaine, on va avoir une dissolution de l'Assemblée nationale.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce que je pense qu'il y a pas mal de dossiers là que le président prend en main. Vous avez remarqué que c'est lui qui est aussi en première ligne. Et à mon avis, ils vont essayer de faire passer l'hiver aux Français pour que ça se passe très bien, en leur disant au mois de mars, regardez, vous avez vu, crise ukrainienne, crise énergétique, crise de la consommation, crise de tout ce que vous voulez, c'est moi le patron, voilà, si vous voulez que j'avance, donnez-moi le pouvoir.
Ouais, moi, je suis d'accord avec
Ahmed.
Avec Ahmed. En fait, c'est une manière de dramatiser en fait le moment, un peu comme à la sauce Covid. La dissolution, je pense que ça va être compliqué pour le président de tenir 5 ans de toute manière. Là, on a une crise assez forte. Est-ce que les Français sont prêts à aller voter? La réalité, la clé, elle est chez les oppositions à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue pour le président de la République. Dès lors, je pense que la loi de finances va apporter cette solution-là, c'est-à-dire que la loi de finances va cristalliser potentiellement les oppositions. Dès lors que vous avez, on va dire, la NUPES et le Rassemblement national qui vont s'entendre, pas officiellement, naturellement, pour faire tomber le gouvernement, effectivement...
Qui va s'entendre ? La NUPES ?
Bah pour moi, c'est forcément une partie de la NUPES et le Front National, enfin le Rassemblement National aujourd'hui. Alors, quand je dis s'entendre, ils ne vont pas... Qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'accord électoral ou quoi.
Il n'y a pas d'alliance.
C'est juste qu'il y a un intérêt commun, c'est de faire tomber le gouvernement.
Ceci dit, la NUPES, ils sont mal partis, là, avec le Parti communiste qui est sorti, dimanche, samedi, à la fête de Lima, en disant le facteur travail et le facteur allocation familiale. Je vais dire, à un moment donné, ils ne peuvent plus se mettre en.
Bon, ça, c'est Fabien Roussel.
Oui, mais. C'est pour ça que ce n'est pas sûr que la dissolution ait lieu si rapidement que ça.
Non, je dis, moi, à mars-avril. Mars.
Pourquoi ? Parce que justement, ni le Rassemblement National et surtout pas la NUPES n'ont intérêt à une dissolution parce que, on ne va pas faire de projection gratuite, mais aujourd'hui, si on retournait aux urnes, je ne sais pas qui gagnerait, mais en tout cas, je ne suis pas certain que la NUPES ait le nombre de députés qu'actuellement.
Dernier sondage, s'il y avait une élection, on passerait de 95 élus Front National à 120.
À 120.
Oui, pour le Rassemblement National, je suis d'accord. Voilà. Eux, ils augmenteraient quoi qu'il arrive. Dans un mode de scrutin qui leur est défavorable.
Voilà. Et je pense que là-dessus, voilà, il est en train de. Il y aura, ils ne peuvent pas.
Comme ah, mais tu veux dire qu'il fait du Mitterrand, c'est ça?
Ah, mais bien sûr, complètement. Mais faire monter le Front National. Il faut le savoir. Attends.
Vous me permettez une belle transition, puisqu'on va parler, vous savez quoi, d'un autre sujet. C'est celui, justement, de la NUPES, le député de la France Insoumise. Monsieur Adrien Catanès, visé par une main courante déposée par son épouse. Ma question est très simple. Il ne s'agit pas de commenter, évidemment, la main courante. Hein, et puis, pour le moment, c'est par l'épouse du numéro 2 hein, de la France Insoumise. Parce que, deux choses. C'est que, normalement, évidemment, le député était promu pour prendre la tête de la NUPES, à la place de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, est-ce que ça ne risque pas de fragiliser la NUPES, Jessica et Longuerre?
Bien évidemment que ça entache sa réputation, et ça quand même, on ne peut pas... quoi qu'il en soit, je veux dire, à partir du moment où il y a eu cet acte-là, sa posture, son image est entachée. Moi, je pense que ce sujet, quand même, il relève beaucoup de questions parce que on a eu pas mal de cas où on a eu pas mal de femmes qui ont libéré la parole et qui ont dénoncé certains agissements. C'est vrai aujourd'hui qu'on attend d'un politique, du politique, d'avoir une posture de exemplaire. Griveaux en a payé les conséquences il y a quelques années de ça. Et donc, du coup, Benjamin Griveaux. En effet. Donc, du coup, je pense que, en effet, ça va beaucoup fragiliser la NUPES. Maintenant, je tiens quand même à dire, alors, Adrien Quatennens n'est pas le seul formé parmi les membres de la France Insoumise. Il y en a d'autres. Mais en effet, il était l'élément, il était le visage.
Potentiellement, il était celui qui devait remplacer Jean-Luc Mélenchon.
Exactement.
En tout cas, il était préparé pour.
Il était fortement préparé. Aujourd'hui, on ne peut pas contester.
Oui. Moi, je crois.
On ne peut pas nier le fait que Adrien Quatennens est un politique bien formé. Il a un pragmatisme qui lui est propre. Il a une façon d'aborder les choses. Alors, on peut être d'accord et ne pas être d'accord sur la ligne du parti, mais je pense que c'est quelqu'un qui la défend quand même très bien aujourd'hui.
Ahmed Lawedge.
Non, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ça l'arrange, d'accord, parce que, à mon avis, en 2027, il va vouloir encore se présenter. Et vous verrez, si on est encore là,
et
j'espère que l'émission va continuer, c'est que, à mon avis, il sera candidat. Non, sur Adrien Quatennens, comme tout être humain, je veux dire, voilà, il a un souci familial, voilà, il faut à un moment donné, voilà. Mais d'un autre côté, c'est quand même, on va dire, en tant que député d'un parti, c'est eux quand même qui prônaient, je dirais, entre guillemets, la lutte, de violence faite aux femmes. Je crois que c'est eux qui ont mis ça en avant.
Les violences conjugales, et ça leur
saute à la gueule avec des gens qui sont aujourd'hui députés et qui essaient de faire passer des lois. C'est ça qui est embêtant pour Katniss. Après, sur la main courante, moi, je rentrerai pas dans le fait qu'il a tort ou il a raison ou c'est sa femme qui a tort, c'est raison. La vie privée d'une personne, d'un couple, ne doit pas rentrer dans un, je dirais, dans une catégorie pour pouvoir dire, bah, il a fait ça ou il a pas fait ça. Sauf si, bien sûr, s'il y a des violences, et là, il faudra qu'il en dise face à
après,
la justice.
Après, on se tient quand même à dire, c'est une main courante et que sa femme avait demandé qu'il n'y ait pas d'audience publique, qu'il n'y ait pas, voilà, que ce ne soit pas récupéré. Donc, à un moment. Public, hein.
Ma courante, c'est public. Oui. Farid Tamsameni, tiens.
Non, alors moi, je ne commenterai absolument pas les affaires de couple.
Non, moi, ce n'est pas les affaires de couple. Là, on parle, est-ce que ça ne fragilise pas la NUPES, y compris effectivement lui, qui était normalement destiné à occuper les rênes de la NUPES.
Je pense qu'Adil, le moment, il n'est pas choisi par hasard. La réalité, tu le dis, c'est que si cette affaire-là, elle sort là-dessus, maintenant, c'est qu'effectivement, c'est pour le nuire. Bon, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. En plus, intellectuellement, il tient la route.
C'est vrai que c'est un des meilleurs.
Bon,
c'est vrai.
Tu sais très bien, moi, je partage absolument pas leurs idées, mais objectivement parlant, c'est un mec qui tient la route. Maintenant,
face aux autres, tu as entièrement raison.
Exactement. Après, je pense, et je vais pas me faire que des amis, mais je pense qu'à la NUPES, enfin, pas à la NUPES, pardon, à la France Insoumise, il y a un véritable problème. Parce que c'est pas la première affaire. Il y a beaucoup d'affaires qui sont mis sous le tapis, notamment de violence envers les femmes et notamment envers certaines militantes. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des affaires comme ça, notamment la France Insoumise. Regardez l'exemple.
Qu'est-ce que vous voulez nous balancer par là ?
Non, mais l'exemple le plus concret, c'est que le candidat qui a été.
Le président de la commission des finances.
Avant le président de la commission des finances, je pensais au candidat dont on a retiré l'investiture, Tahabouaf.
Ah oui, Tard, monsieur Tard. Ouais.
Voilà. Il y a le président de la commission des finances, effectivement.
Monsieur Éric Coquerel.
Où ils avaient sorti un truc, moi, qui m'avait complètement choqué. Et moi, encore, je suis complètement abasourdi. C'est que quand il y a un problème aussi grave comme ça, en fait, on le règle en interne et on ne fait pas appel à la justice. Bon, je trouve ça scandaleux. Et donc, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il y a un véritable problème dans ce parti-là, en tout cas, de ce point de vue-là. Alors, je pense que c'est pas les seuls, hein, mais en tout cas, il est assez important à la France Insoumise.
Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, 01 53 48 3000, venez donner votre point de vue. On marque la dernière pause pub et on se retrouve, on va aller direction évidemment ce taxe Poutine Xi Jinping contre l'Occident. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Ahmed Lawedge, les informés, c'est avec Jessica Elonguer, les informés, c'est enfin avec Farid Temsamani, mais surtout, les informés, c'est vous aussi, partout en France, au 01 53 48 3000, dernière ligne droite, 19h22. Nous allons parler de cette rencontre. Vladimir Poutine, le président Poutine, qui cherche désespérément un soutien auprès de Xi Jinping, le président chinois. Alors, deux puissances qui sont évidemment, complètement contre l'Occident, et surtout deux puissances qui ne cherchent qu'une seule chose, à asseoir deux pouvoirs. Farid Temsamani, c'est la première fois depuis la guerre en Ukraine que Poutine et Xi Jinping se rencontrent lors d'un sommet en Ouzbékistan.
Oui, bon, bah, ils ont au moins un intérêt commun,
l'impérialisme.
Voilà. Bah, sur le terme de l'impérialisme, moi j'ai un souci, parce que ce que fait la Russie en Ukraine, ça s'appelle de l'impérialisme.
Et la Chine aussi.
Alors, la Chine
s'appelle de l'impérialisme.
Mais ils ont un ennemi commun, ça s'appelle les États-Unis et l'OTAN, objectivement. Ouais. Bon, la Russie est une grande civilisation, la Chine également, mais ils ne jouent pas dans la même cour, objectivement parlant. La nature de la structure économique de la Russie est complètement différente de la Chine. La Chine est la première, si ce n'est la première ou en tout cas la deuxième puissance économique mondiale, et a la vocation à devenir la première puissance tout court
dans les
20 ans à venir sur la planète. Donc la réalité, c'est ça. C'est que les Chinois utilisent Poutine comme marionnette contre les Américains par rapport à Taïwan. Et, et objectivement, après, lui, Poutine, cherche des débouchés et surtout, en fait, cherche de l'importation. Pour ceux qui connaissent la Russie, ceux qui ont été en Russie, en fait, il n'y a pas d'économie véritablement russe. Ils sont très riches énergétiquement, mais il n'y a pas véritablement d'économie. Or, les Chinois n'ont pas, dans le conflit notamment avec l'Ukraine, en une position très ambiguë. En
qu'est-ce
réalité.
Qu'il vient chercher Poutine?
Il vient chercher un
avec cette rencontre avec Xi Jinping.
Déjà, il fait un buzz déjà parce qu'on en parle.
Ahmed Lawedge.
Déjà, il fait un buzz.
Ouais. Parce qu'on parle que de ça.
Parce qu'on en a parlé.
On parle que de ça.
Ce matin, le rapprochement entre la Russie et la Chine. Il a fait un coup en disant, on le disait hors antenne.
Ça, il sait faire, Poutine.
Attention, la Russie et la Chine peuvent être des grands amis. Donc ça, c'est un clin d'œil directement à Biden pour dire. Venez pas nous emmerder à Taïwan. D'accord ? Donc ça aussi, des deux côtés, chacun joue avec l'autre pour essayer de gagner la partie. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont toujours fait ça, la Chine et la Russie. Sauf que ce qui va se passer, c'est que, est-ce que, par rapport à cette guerre, est-ce que l'Ukraine, avec l'Europe et l'Occident, enfin l'Europe et les États-Unis, ils vont bouger les lignes pour que la Russie sorte de l'Ukraine ? Ça, on ne sait pas encore. Même si, ici ou là, il y a des avancées. Mais moi, je pense, à mon avis, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que Poutine, en faisant ça, s'il a fait ça, c'est qu'il y a peut-être un petit souci.
Lequel ?
Bah, c'est qu'à un moment donné, peut-être que son armée, elle n'est pas aussi forte qu'on croit.
Ah, vous soulevez là, effectivement, un point.
Oui, bon, c'est quand même une grande armée.
C'est intéressant.
Mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'intox sur le conflit en Ukraine. Clairement, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Ça ne veut pas dire qu'il voulait, contrairement à ce que certains disent, complètement envahir l'Ukraine. Je pense que les sanctions occidentales font. Il ne s'y attendait pas. Je pense qu'il ne s'attendait pas à des sanctions aussi importantes. Et pourtant, elles ne sont pas à 100%. Et donc, du coup, il est obligé, notamment dans ses rapports financiers, à voir de l'autre côté, c'est-à-dire en Asie. Et notamment la première puissance financière, ou en tout cas la première puissance de ce côté du monde, ça reste la Chine. Après, là, je pense que les Chinois utilisent, pour ne pas utiliser un mot très vulgaire, mais ils utilisent Poutine, effectivement, dans leur rapport contre les États-Unis, de dire, voilà, on peut faire un peu de communication, etc.
Et pourtant, les Chinois ont acheté du gaz auprès des...
Oui, alors ce qu'il faut savoir, d'ailleurs pour nos éditeurs, c'est qu'en fait, les Russes ne peuvent pas vendre du gaz aux Européens. Par contre, ils le vendent aux Chinois, à brader, et qui, eux, le revendent ensuite aux Européens. C'est ce qui a permis, c'est pour ça que tout à l'heure, dans le sujet sur l'énergie, c'est ce qui a permis aux Français, en fait, de remplir leur stock quasiment à 100% aujourd'hui, grâce aux Chinois. Donc, en fait, même les Chinois, en réalité, jouent double jeu. Même, voilà, c'est... Après, il y a la communication, il y a comment on maintient tout ça vis-à-vis des peuples, vis-à-vis de la population. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une baisse d'activité en Chine depuis cet été. Donc, il y a un ralentissement de l'économie.
De la production.
De la production. Donc, ça, c'est très important. Donc, du coup, on est obligé de faire très attention. Et je rappellerai juste une chose. Les Chinois ont besoin des Américains pour pouvoir maintenir leur niveau de production aujourd'hui, même s'ils sont première ou deuxième puissance économique mondiale. Donc, pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Par contre, il y a la volonté de changer l'ordre mondial. Ça, c'est une évidence. Donc, la Russie et la Chine, là-dessus, s'accordent parfaitement. L'ordre mondial qui est aujourd'hui très clairement sous la main des Américains, clairement, les Chinois disent, voilà, bon, bah, ça ne peut plus durer, il faut. Mais ils leur font encore un peu de temps. Aujourd'hui, leur monnaie vaut, entre guillemets, pas grand-chose. L'énergie, même venant de Russie, ce même si c'est des roubles, en réalité, c'est un équivalent US dollar. Donc après, il y a beaucoup de fantasmes. Les gens aimeraient beaucoup que les Américains s'écroulent du jour au lendemain, etc. En vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça viendra probablement, parce que la Chine deviendra première puissance mondiale au sens militaire, financière, diplomatique, etc. Mais ça n'est pas encore, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et je pense que dans le calendrier chinois, puisque les Chinois, c'est public, hein, c'est pas quelque chose de caché ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont un calendrier, c'est, il me semble, 2049, pour le centenaire du discours. Je ne sais plus de quel président chinois qui te dit, voilà, en 2049, il faut qu'on soit la première puissance mondiale. Je pense qu'ils le seront potentiellement un peu avant.
Un peu avant aussi, ouais, je pense aussi.
Ce qui va peut-être leur causer du tort.
Mmh. Ouais, tout ça s'annonce, je ne sais pas. Bon, enfin, Jessica Longuer.
Bah, on parlait tout à l'heure d'impérialisme. Moi, je pense que, de toute façon, c'est le pourquoi de cette guerre. Et tout ce qui va arriver derrière n'est que des stratégies impérialistes. Il y a quand même Poutine qui a dit qu'il désolait la stratégie unipolaire de l'Europe, donc du monde occidental. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant parce que, si je me trompe pas, il y a, en été, on avait il y avait Monsieur Boniface qui avait donné un avis sur la situation géopolitique. Et ce qui est intéressant, c'est que ben on constate que même si la Russie est en difficulté, elle cherche des alternatives. On l'a vu avec son marquage sur le territoire du Mali. On le voit aujourd'hui avec des peuples africains qui réclament l'armée russe. Donc on a des pays qui sont quand même qui demandent.
C'est fou, hein.
Qui demandent.
On voit l'impérialisme français en Afrique pour un impérialisme
c'est pas,
russe.
C'est pas, on peut pas comparer de toute façon.
Ils font pas de la même façon.
Aujourd'hui, les pays sont indépendants.
Ils font pas de la même façon.
Avant,
non, je t'assure, ils font pas de la même façon.
Pendant la guerre froide,
eux, ils sont dans l'essai de faire en sorte d'avoir le peuple africain avec.
Est-ce que tu connais ce que la Russie fait en Centrafrique?
Ah non, mais je pense qu'il...
Est-ce que vous savez ce que la France a fait, je sais pas, mais tu vas nous le dire,
Farid.
Comment?
Tu vas nous le dire.
Non, mais...
Bah, elle torture.
Notamment.
Oui, comme elle a fait au Mali, actuellement.
Mais moi, j'ai pas dit que...
Avec Wagner.
Elle pille.
Avec Wagner.
Elle pille.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait...
Bien sûr. Ah, mais eux, ils sont...
Le fait de dénoncer, à juste titre... Notamment la politique globale.
Ils ne sont pas colonisateurs. Le problème, c'est
finalement,
qu'ils sont...
les gens, ouais. Ceux qui dénoncent ça, en fait, font appel aux Russes.
Moi, je pense que
il faut le mot de la fin.
Je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça. En 85, quand on était à la guerre froide, les pays étaient colonisés. On avait des pays qui n'avaient pas d'autre choix que de suivre finalement ce que.
Allez. Merci à Jessica Elanguer, élue de Creil. À très bientôt. Merci à Farid Tamsamani. À très bientôt. Merci à Medlawadj. À très bientôt. À la réalisation, c'était Tarek. Thème sport avec Bilal Nenman 20-21, ensuite Vanessa 21 minuit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.